voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Sophie Tourlotin.
Il y a le bon, la brute, le truand, le justicier, le solitaire, le héros de Rodéo. Et puis il y a le peau rouge, Cheyenne, Apache, guerrier impitoyable, bon sauvage, perfide ennemi ou humain en phase avec la nature et les éléments. Les cow-boys, les indiens, leurs différents avatars et représentations liées à l'histoire de Hollywood et au désenchantement de la société américaine. On en parle aujourd'hui dans une émission spéciale à l'occasion de la publication par l'éditeur Carlotta de magnifiques coffrets de DVD de western. Louis-Stéphane Ulysse, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain passionné du genre et vous avez signé les textes de deux très beaux livres richement documentés, deux grands livres, l'un consacré aux cowboys, l'autre aux indiens, publié par GM Éditions, chacun accompagné de 6 DVD de classiques incontournables comme Il était une fois dans l'Ouest, Alamo ou encore Little Big Man. Pierre Berthaumieux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien du cinéma, critique, vous avez écrit le livre qui accompagne le coffret ultra collector du chef-d'œuvre de King Vidor, Duel au soleil. Il était une fois le western, genre américain s'il en est. Alors tout commence, Louis-Stéphane Ulysse, tout commence si j'en crois votre livre, Les Cowboys, avec Buffalo Bill. Et c'est aussi donc avec cette figure de légende que vous entamez votre livre, car c'est lui, le fameux tueur de bison, qui a l'idée d'un spectacle, hein, une sorte de spectacle de cirque, c'est ça,
Wild West Show. Ouais, et c'est lui qui finalement va poser, qui va se retrouver en position de forain à ce moment-là, qui n'est plus un chasseur de bison, qui va poser les codes du western.
On est juste avant l'invention du cinématographe.
Voilà, mais de toute façon, ce qui était intéressant, c'est de constater que la conquête de l'Ouest s'arrête, et au moment où elle s'arrête, le cinéma démarre et commence à rendre compte très vite de cette conquête de l'Ouest. C'est-à-dire qu'elle se poursuit en fiction. Et Buffalo Bill va poser les codes qu'on retrouve encore aujourd'hui sur l'Indien, avec un bouquet de plumes, le cow-boy avec le bandana, le voilà. Et c'est à partir de là que vont démarrer les personnages de western, vont être bâtis plus sur cette représentation-là que sur les témoignages des vrais héros de l'Ouest qui ne trouvent pas vraiment de crédit à Hollywood finalement. On préfère garder la légende, donc.
Alors, le tout premier western inventorié, alors je sais pas si vous l'avez vu l'un et l'autre.
Oui.
1903. C'est ça que vous dites.
Le vol du rapide.
Oui.
Le vol du grand rapide.
Oui. Qui est inspiré d'un fait divers, qui est un fait divers qui a marqué l'Amérique, puisque c'est un braquage qu'a fait Butch Cassidy. Et ce qui est étonnant, c'est qu'à la fin du film, enfin bon, la scène est assez célèbre, un des cow-boys tire sur la face caméra, et que le public à l'époque est pas du tout habitué à ça, et donc il y a des réactions insensées, les gens se cachent sous leur fauteuil, partent en courant, enfin sont complètement horrifiés.
Ça, c'est digne de l'arrivée du train en gare de la Ciotat.
Exactement.
Oui, c'est à peu près là.
Ce que je trouve très intéressant, c'est vraiment qu'il faut rappeler, c'est ça, que la représentation de l'Indien dans le western américain, c'est vrai qu'elle a vraiment changé à partir de 30, enfin, après 34, après 36. Et on parle assez peu des westerns au temps du muet, alors que justement, dans les années, bon, 10, assez peu, mais dans les années 20, il y a plein de westerns dans lesquels il y a des figures indiennes très, très nuancées.
Très positives.
Le mari de l'Indienne, Redskin, voilà. Tout ça. Et c'est après 36, 37 que ça devient plus un genre épique avec les Indiens contre les conquérants blancs. Ça s'inverse à nouveau vers le début, milieu des années 50.
Oui. Et on peut penser que ça, c'est l'arrivée du parlant qui force aussi à construire le scénario différemment, c'est-à-dire la prise de parole. Mais au tout début, Edison, quand il fait ses petits bouts de pellicule d'une minute, l'Indien, c'est comme ça fait partie du paysage. On pense à l'époque dans la société nord-américaine que l'Indien va finir par s'assimiler, qu'il y en aura plus.
Donc vous montrez dans vos livres, Louis-Stéphane Ulysse, que effectivement Hollywood au départ, on n'est pas à Hollywood dans les années 20, mais enfin il y a quand même l'invention de toute une mythologie, toute une effectivement qui correspond pas forcément à la vie des vrais cow-boys de la conquête de l'Ouest. Alors notamment ce qui est amusant, par exemple le port du Stetson. Qui n'est pas forcément le chapeau traditionnel.
Parce que les vaqueros n'avaient pas ce genre de chapeau. Ça, c'est un code qu'a imposé Buffalo Bill. Comme les cris d'Indiens quand ils attaquent une diligence
tous les cris qu'on a fait enfant, c'est...
Ah non, et ne non. Et ce qui était vie. Intéressant et ce qui m'a aussi donné envie d'écrire sur le rôle de l'Indien dans le western, c'est un documentariste amérindien qui vit au Canada, qui s'appelle Neil Diamond, qui a écrit Un Indien à Hollywood, enfin qui a fait un documentaire qui s'appelle Un Indien à Hollywood, où il explique qu'enfant, quand il regarde un western, lui, il veut jouer le cow-boy. Et là, on s'aperçoit c'est beaucoup moins positif. Enfin, c'est-à-dire, on peut voir le western sous cet angle-là. Et là, on s'aperçoit que c'est aussi l'effacement d'une culture, que c'est aussi, il y a un brouillage. C'est-à-dire que les Amérindiens finissent eux-mêmes par ne plus savoir
quel côté...
Oui, mais c'est très important.
Alors, il y a moi, je voulais commencer cette émission aussi par les cow-boys, mais vous nous entraînez sur la voie des Indiens. Néanmoins, revenons aux cow-boys et revenons à l'un des plus emblématiques, en tout cas de Hollywood, c'est John Wayne. Il figure, cela dit, dans les deux coffrets différents de Carlotta, Cowboys et Indiens, puisqu'il a signé le film Alamo. Hein, c'est l'un des deux films qu'il a réalisé, dans lequel il joue Davy Crockett, dans cette histoire de défense héroïque d'un fort assiégé par les armées mexicaines. Et puis, il figure aussi, évidemment, dans un des chefs-d'œuvre de John Ford, La prisonnière du désert. On va écouter un extrait de Alamo.
Republic. I like the sound of the word. Means people can live free, talk free, go or come, buy or sell, be drunk or sober, however they choose. Some words give you a feeling. Republic is one of those words that makes me tighten the throat. Same tightness a man gets when his baby takes his first step or his first baby shaves. Makes his first sound like a man.
Voilà, ici Alamo de John Wayne et la voix de John Wayne en Davy Crockett, congressman du Tennessee qui vient prêter main forte aux révoltés texans, donc dans Alamo, une déclaration d'amour à la démocratie. C'est très lyrique et on voit dans ce film un John Wayne qui est beaucoup plus, je sais pas si on peut dire libéral, mais en tout cas beaucoup moins controversé que la figure du John Wayne qu'on connaît, qui a été
c'est vrai que
Pierre,
pour
Bertomieux.
Rebondir sur ce qu'on a dit il y a quelques minutes, c'est que quand on dit John Wayne, on pense au personnage de cinéma. C'est-à-dire que John Wayne, c'est une invention de cinéma. Quand on dit John Wayne ou
d'ailleurs,
Clark Gable
ou
autre, ces personnages, enfin ces personnes-là, on les connaîtra jamais. tout ce qu'on en connaît, c'est le John Wayne, dont c'était pas le vrai nom, mais comme plein d'acteurs, commence à être une star. Avec un western qui s'appelle La Piste des Géants en 1929-30, et puis qui après va végéter, c'est-à-dire que durant 10 ans, dans les années 30, on fait pas beaucoup de westerns, donc
il devient boxeur,
il fait des séries B, des westerns de série B, tout d'un coup, en 1939, il redevient une figure presque de premier plan, enfin encore quelques années avec la chevauchée fantastique, Stagecoach, John Ford. Mais donc, que ce soit les cow-boys, les figures de chefs indiens, les figures de généraux, figures de présidents, je veux dire, donc Hollywood est quand même une des plus grandes fabriques de mythes et de fiction de l'histoire de la culture.
A
fabriqué des personnages. On connaît le cowboy, on connaît John Wayne comme Gary Cooper, comme Clark Gable, avec un type de chapeau, un type de pistolet, qui sont des figures de fiction d'une énorme puissance et qui ont été tellement puissantes que si au début, au moment où le cinéma se met à se fabriquer, un peu avant que ces figures n'existent, ceux qui ont vraiment vécu l'Ouest se reconnaissent pas forcément. En revanche, une fois que le western a fabriqué toutes ces figures, les jeunes spectateurs se mettent à imiter les. Voilà, être cowboy, ce ne sera pas être comme un cowboy, ce sera être comme John Wayne, avec le même chapeau, la même démarche et les mêmes pistolets.
Oui, d'ailleurs, Wayne en était assez conscient, puisqu'il disait qu'il jouait John Wayne, et que le vrai John Wayne, enfin, on ne savait pas bien qui c'était, en fait.
Alors, il y a plusieurs âges d'or du western, ça aussi, oui. on découvre en lisant votre livre, Louis-Stéphane Ulysse. Et presque des âges d'or liés à des avancées technologiques.
Oui, c'est-à-dire que, par exemple, pour l'arrivée du son, c'est plutôt le western qui pose de tels problèmes qu'on est obligé de se mettre à niveau techniquement. C'est le genre qui est le plus pénalisé par l'arrivée du parlant, parce que pour sonoriser une poursuite à cheval, pour sonoriser des scènes dans la nature, c'est effroyablement compliqué au début. Et Hollywood est obligé de s'ajuster à ça. Alors que, bon, ils arrivent à se débrouiller plus ou moins avec la comédie musicale, avec la comédie romantique, avec le film noir, mais le western, à un moment, pose vraiment un problème. Et on pense que c'est un genre qui va descendre à cause de cette technologie au début est un peu défaillante, quoi.
Mais les années 30 sont pas très clémentes envers le western.
Non,
c'est vraiment c'est une décennie. Alors c'est vrai que la crise y est pour beaucoup. Le western, dans ce qu'il a d'épique, de lumineux, de patriote, dans le bon sens du terme, avec ce qui va avec l'épopée, va pas avec le climat un peu plus morose qui se met en place dans les films, enfin dans qui se reflète dans les films des années 32, 33, 34. Mmh. Et l'imaginaire du rapport entre une culture organisée et une culture plus sauvage qui était dans le western se déplace plutôt dans des films exotiques et donc aventures dans les années 34, 35, 36. Et le western renaît comme par hasard au moment où la santé économique revient et une sorte de fierté plus nationale va se remettre en place en 38-39.
Donc vous le montrez aussi dans vos livres avec le 70 mm, enfin la piste des géants dont vous parliez, Pierre Berthomieux, est tournée en 70 mm. Ouais. Les sept mercenaires en cinérama. Puis après il y a l'arrivée de la télévision avec des nouveaux héros. Hein. Faut rappeler que Clint Eastwood, Steve McQueen.
Bah la télévision.
Viennent avec les séries et les feuilletons.
Je ne sais pas ce qu'en pense Pierre, mais la télévision, c'est aussi une réappropriation du Nord, des villes du Nord, des villes de l'Est sur Hollywood. Parce que là, c'est des scénaristes qui viennent du théâtre et qui ont tout à fait une autre vision de comment on construit un scénario, un personnage. Et ça va se traduire également par une guerre économique, c'est-à-dire petite image égale à Hollywood, très grande image pour contrer la petite image, mais c'est aussi une différence d'approche des personnages. Et d'ailleurs, c'est marrant de constater que une des premières séries s'appelait Aigle Noir et met en scène comme héros positif un Amérindien. Mais il n'est pas joué par un Amérindien. Mais, parce que c'est toujours d'un côté à l'autre, les personnages secondaires sont Amérindiens, ce qui est un énorme progrès par rapport aux distributions de l'époque de cinéma.
Les séries télé avec Steve McQueen et Clint Eastwood, donc milieu des années 50, les années 60, ça reflète quelque chose, enfin c'est une dénomination que j'aime pas beaucoup, mais qu'on a collé au western pour le grand écran dans les années 50, disant que c'était le western psychologique, ouais. Parce que ça présupposerait que le western avant, dans les années 40, qui est pourtant une des plus grandes décennies du genre, avait pas des caractères intéressants, mais ce que ça veut dire, c'est qu'on a effectivement plutôt au cinéma dans les années 50 et à la télévision avec Steve McQueen, des personnages qui sont plus travaillés par des névroses intérieures, qui parlent peut-être moins, qui ont plus une vie intérieure, même si elle peut pas être déconnectée de l'action physique extérieure, sinon on n'est pas dans un western. Puisque c'est quand même une affaire de civilisation et de sauvagerie et d'espace quand on parle de
conquête
western.
De territoire.
De conquête de territoire, de guerre, de territoire.
C'est pour ça que ça parle à tout le monde aussi.
Frank sent us. Did you bring a horse for me? Well, looks like we're shy of one horse.
You brought too many.
Voilà une fameuse séquence du début de Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone. C'est les années 70. Et c'est un nouvelle page du western. Là, on fait des pas de géant dans l'histoire du genre, mais c'est évidemment l'époque des westerns spaghetti. Et Sergio Leone, il renouvelle le genre.
Ah oui, complètement.
Avec des bandits, des héros crasseux. Est-ce que vous écrivez des héros crasseux aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur?
C'est-à-dire qu'ils transgressent complètement les codes tels qu'ils ont été fixés par le... Il y a peu à voir, par exemple, entre les sept mercenaires qui arrivent au bout d'un cycle, on peut dire, et ce que propose Léon. En fait, là aussi, il y a un rapport avec l'économie, c'est-à-dire que le cinéma italien, au moment où Léon a l'idée de se lancer dans le western, va très mal. Ils ont perdu énormément d'argent sur des péplums, et l'idée leur vient, parce qu'il y a eu avant le western russe, et c'est assez invraisemblable, c'est-à-dire qu'avec la guerre froide, les Russes ont commencé à proposer un western, parce qu'ils ne recevaient plus de films américains. Et les décors étaient fournis par des Allemands. Les Allemands ont fait Winnetou, une série qui a explosé au box-office, d'après les livres de Karl May. Et ça a donné aux Italiens l'idée, eux aussi, de s'approprier peut-être le western. Sauf que chez Léon, on s'aperçoit qu'il n'y a pas du tout d'Indiens. L'arrivée de Léon amène aussi le Zapata western. Ce qu'on appelle le Zapata western, c'est les westerns italiens, c'est engagé politiquement. Tout ça va retourner après Hollywood. Ça va pas avoir un gros succès public aux États-Unis. Par contre, des gens comme Peckinpah, comme vont retenir entre guillemets la leçon.
Ou Clint Eastwood.
Ou Eastwood, oui. Puisque après les deux figures, c'est Eastwood et Peckinpah. Et dans le texte, à un moment, on sent qu'il y a une opposition aussi entre Eastwood et Peckinpah, c'est-à-dire deux rebelles entre guillemets encore. Il y en a un qui suit quand même sa ligne et l'autre qui est complètement entre guillemets en live, qui est dans une autodestruction permanente mais en même temps passionnante, parce que des fois ça donne des résultats passionnants à l'image.
Alors peut-être je suis un peu plus puriste, moi c'est vrai que le western italien, j'aime beaucoup Une fois dans l'Ouest, enfin j'aime énormément Une fois dans l'Ouest, je trouve un film absolument immense.
Il y a un arbre de coupage,
c'est un opéra sublime, ouais. Immense. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'aimais les premiers avec Eastwood, mais ça m'a passé. C'est-à-dire que, alors c'est pas du tout pour absolument réduire l'importance des films italiens, mais je tends à considérer que le western, il est américain ou il n'est pas. Et que tout ce qui suit, d'ailleurs c'est intéressant, on dit western italien, western Zapata, western russe, c'est-à-dire qu'on est obligé de mettre un adjectif pour, au fond, faire ressentir que c'est une variation sur, un complément de, une réflexion sur, pour être un peu provocateur, je dirais que au fond, le western un peu central, en tout cas quand on est dans le parlant, il se remet en place quand John Ford se remet à faire du western en 39, et il s'arrête quand John Ford finit son dernier western. Et tout ce qui suit, ce qui fait quand même trois décennies, et tout ce qui suit, avec des films essentiels, s'avère un peu des commentaires, des reprises. Léon lui-même disait, je crois, dans des entretiens un peu anciens, que au fond, son cinéaste préféré, c'était John Ford, et que quand il faisait ses propres westerns, il avait l'impression de revenir sur, de repartir sur John Ford et... un western des années 50 qui est un de ses westerns préférés, s'appelle l'homme des vallées perdues. Oui. Et c'est assez intéressant de voir qu'il y a dans Il était une fois dans l'Ouest, qui n'est pas tourné, qui majoritairement est tourné ailleurs qu'aux États-Unis. Il y a quand même un moment,
un monument de vallée.
Voilà, pour je dirais, c'est pas pour faire western, c'est plus profond, pour s'enraciner dans le territoire. Il faut aller à Monument de Vallée, il faut être là où a été le western de John Ford, et quand soudain on a la calèche qui s'avance et qu'on découvre le décor de Monument de Vallée, on a l'impression d'être comme pour la première fois dans un western.
C'est la seule séquence qui est tournée aux États-Unis.
Voilà, et c'est un moment qui dégage une émotion.
De toute façon, même les réalisateurs comme Peckinpah, qui semblent prendre Ford à contre-pied, disent tous au début était Ford, quoi. Il n'y a pas
donc,
de discussion
si
possible là-dessus.
Si on doit voir un seul western, c'est forcément un film de John Ford. Si oui, lequel?
Moi, je dirais oui. On me présente souvent comme un iconoclaste, mais là, je vais pas l'être. C'est-à-dire que La prisonnière du désert, sans aucun doute.
Pareil, moi, j'ajouterais Anthony Mann, quand même,
avec
pour le rapport à l'espace.
Et Delmer Daves, alors. 3h10 pour Yuma.
Tous les cinémas du monde, c'est l'heure de l'entracte. Restez avec nous, car après le flash d'info, toujours en compagnie de Louis Stéphanoulis et Pierre Berthaumieux, nous explorons les terres du western et nous parlerons plus précisément de Duel au soleil.
Et après, qu'est-ce qui se passe alors?
Tous les cinémas du monde.
Sophie Tourlotin.
Bienvenue dans cette deuxième partie de Tous les cinémas du monde. Nous sommes toujours en compagnie de Louis-Stéphane Ulysse et Pierre Berthomieux pour parler du western en général et de Duel au soleil en particulier à l'occasion de la parution de coffret DVD collector par Carlotta. Après les cowboys de la première partie, les Indiens.
Ah ! Ambush ! Run ! Ah !
Alors, vous parliez en fin de première partie, tous les deux, de Delmer Daves, hein, comme étant un grand cinéaste de western dont il faut avoir vu un film. Là, ici, il s'agit d'un extrait de Broken Arrow avec James Stewart. Là, c'était une attaque d'Indiens, un film raconté en voix off. Ça aussi, c'est assez, dans la forme, toujours un peu étonnant pour un western.
Toute représentation pour enfoncer des portes ouvertes n'est en fait que de convention, mais oui. le début, la voix dit, le film que vous allez voir, c'est la voix de James Stewart, dit, c'est l'histoire que j'ai vécue, elle s'est passée comme ça, sauf que vous allez l'entendre en anglais, alors que, évidemment, tous les personnages ne l'ont pas parlé, ne l'ont pas dite, donc en anglais. C'est une manière de dire, voilà, il y a une convention qui est dans tous les films, parce que les films américains parlent anglais, et le film, justement, parce qu'il joue sur le rapport entre deux cultures, commence par dire, il y a bien deux cultures.
Pour que ce soit accessible,
on va parler anglais.
Non, l'apport de Danse avec les loups, pas comment l'évaluer au niveau cinématographique, mais en tout cas, le grand changement, c'est que les Amérindiens parlent leur langue, et d'ailleurs que ça a été compliqué, parce que tous n'étaient pas Lakota, et que pour certains Sioux, parler de Lakota, c'est impossible, c'est irréprésentable, et qu'il y a eu des conflits au début du tournage sur ce problème.
Donc pendant longtemps quand même, donc avant quand même Danse avec les loups, et même encore avant, on en reparlera de Little Big Man, entre l'avènement du parlant, hein, pour faire gros, et jusqu'à peut-être Little Big Man, la figure de l'Indien dans les films, dans les westerns, n'est pas une figure très nuancée.
Ah, en gros, si on est dans le parlant, à partir de la fin des années 30, dans les années 40, début des années 50, dans le western épique, donc l'Indien c'est l'ennemi, donc il n'est pas très nuancé.
C'est l'animal, c'est le danger permanent.
Mais c'est une tribu, ce sont des tribus avec leur culture qui sont l'ennemi, qui ont leur civilisation, qui sont l'ennemi. Ford lui-même dira quand il fait les Cheyennes, plus tard, oh, je leur ai fait beaucoup de mal, je les ai mal représentés, donc une bonne fois pour toutes, je vais les représenter mieux. Mais comme à mon avis dans tout le cinéma classique, c'est pour ça que c'est à mon avis le cinéma le plus complexe qui soit, c'est-à-dire que tout élément contient sa contradiction. Et donc, dans des westerns qui vont représenter les Indiens comme des forces vraiment violentes ou maléfiques, on va avoir dans les mêmes westerns des figures d'une dignité, d'une force, voire d'une puissance tragique. Par exemple, dans le Pacific Express en 1939, la conquête, le chemin de fer qui se met en place, les Indiens attaquent le train, et en même temps, on a soudain un type, donc un Américain, un industriel qui est dans le train, qui ouvre la vitre et qui tire sur un Indien qui était un type qui, avec son fils, venait voir pour la première fois dans un train. Donc il y a comme ça des choses d'une violence brute. Et ça, c'est toute la complexité de la partie classique, je dirais.
Ouais, à la nuance près que Ford, quand même, avant les Cheyennes, quand il arrive pour la première fois à Monument de Valais, c'est une réserve Navajos où il y a des milliers de Navajos qui sont dans un état de pauvreté épouvantable, et que Ford est très conscient de ça. Donc au début, il n'est pas question de leur donner des rôles, mais il sait très bien qu'économiquement, l'arrivée des studios sur ce site va aussi donner un peu plus d'air aux tribus qui sont là, parce qu'ils sont vraiment, quand il arrive, ils sont vraiment plus que mal, quoi. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, c'est une catastrophe.
Mais le génocide indien, longtemps, il a été nié, enfin, comme occulté, non, par Hollywood. Il a peut-être fallu attendre. Est-ce qu'on peut dire qu'il a fallu attendre les
Tribunaux? Déjà, moi, le mot génocide, je pense que...
Alors, le massacre, on va dire?
Oui, il y a un massacre.
Systématisé,
très clairement.
Pour s'accaparer les terres.
Je veux dire, quand les gens arrivent sur le continent, les Européens de divers pays arrivent sur le continent nord-américain, il suffit de lire le dernier des Mohicans, l'Amérindien n'est pas du tout traité comme un truc à exterminer. Hein. Enfin, c'est simplement, après, il y a des gens qui veulent la terre, qui veulent prendre la terre.
C'est une guerre de territoire.
C'est une guerre de territoire, mais dans un autre registre, mais quand même, c'est à la même époque que la conquête de l'Algérie, on s'aperçoit qu'il y a exactement finalement les mêmes, l'armée se comporte à peu près, voilà. Après, les Amérindiens sont clairement les agressés, mais dès que l'armée, des fois, essaye positivement de négocier avec eux, c'est ultra compliqué, parce que c'est absolument pas les mêmes civilisations. Quand il y a des traités qui sont signés, c'est quand même très compliqué de signer noir sur blanc sur un traité. Les frontières vont reculer de 500 km en fonction des bisons qui vont passer ou des oiseaux qui sont dans le ciel. Donc les militaires, même qui sont pour une pacification, s'arrachent les cheveux, quoi. Ils ne savent pas comment faire. C'est aussi un élément à prendre en compte, mais il ne s'agit pas de réduire ce qui s'est passé du tout. Hein. Il y a clairement un agresseur et un agressé, on est d'accord.
Tiens, regarde cette belle chose. Est-ce que tu apprécies l'humanité qu'il y a dedans? Mon fils, c'est parce que nous sommes des êtres humains qui savent bien que tout est vivant sur la Terre. Non seulement les hommes et les animaux, mais aussi les pierres, l'eau, la terre. Et aussi les choses qui viennent des hommes, comme leurs cheveux. L'homme qui a porté ses cheveux sur sa tête est maintenant chauve de l'autre côté. Parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui détiens son scalp. Les choses sont comme ça et c'est la vérité. Mais les hommes blancs croient que tout est mort. La terre, l'eau, les animaux, et même les gens, y compris ceux de leur propre race. Si quelque chose sur Terre essaye de vivre, les hommes blancs s'empressent de le faire mourir. C'est là qu'est toute la différence.
Un extrait de Little Big Man d'Arthur Penn. Alors, est-ce que c'est encore un western ou est-ce que c'est finalement un grand film sur la guerre du Vietnam?
Alors, c'est un western. Par contre, les Amérindiens, eux, ne souscrivent pas du tout à ce type de western, parce que justement, ils disent non, vous parlez de la guerre du Vietnam en vous servant de nous, mais c'est pas du tout notre problématique. Et ça, ils vont avoir cette réaction-là avec un homme nommé Cheval. Avec Danse avec les loups, ça va être un petit peu différent, parce que là, pour la première fois, il y a l'introduction de la langue. Mmh. Et c'est très important symboliquement. Il va y avoir des embrouilles après le film, mais ils valident quand même. Mais les Amérindiens, non, semblent très sourcilleux, très pointilleux sur ce qui représente leur parole ou pas.
Grand film sur la guerre du Vietnam, sans doute. Moi,
le soldat bleu, dans ce cas-là.
Oui, voilà. Ou le soldat bleu. Jusqu'à la porte du paradis, bon. Mmh. Voilà. De Cimino. Mais justement, enfin, c'est des films, je crois que Little Big Man, 1970, Porte du paradis, 1980.
80, ouais.
Voilà, on est sur 10 ans. C'est une période qui, cinématographiquement, en tant qu'amateur de western, moi qui m'a toujours beaucoup moins intéressé, parce que, historiquement, sociologiquement, on a des westerns sans doute plus critique ou plus franchement critique, plus directement critique, mais moins dialectiquement critique, mais en tout cas qui produisent beaucoup moins de mythes, qui sont avares en termes de production mythique, c'est ce qui pour moi les rend moins excitants pour l'imaginaire.
Alors s'il y a un thème, un archétype, enfin, puis-je dire récurrent dans la représentation de la conquête de l'Ouest, c'est l'arrivée du chemin de fer, hein, qui peut être présenté de manière négative, et c'est qui nous mène tout naturellement de « Il était une fois dans l'Ouest », à « J'ose ce pont », à « Duel au soleil », puisque c'est aussi un des...
Mais le pont n'est pas anodin du tout, puisqu'il y a une influence directe de « Duel au soleil » pour le chemin de fer sur « Il était une fois dans l'Ouest
hein, ». Effectivement, donc « Duel au soleil », donc Carlotta sort une édition ultra collector DVD Blu-ray avec une nouvelle restauration, et dont Pierre Berthomieux vous signez le livre intitulé Le Temps des Folies. Alors Duel au soleil, je posais presque la même question que pour Little Big Man. Est-ce donc King Vidor, est-ce encore ou est-ce que vraiment un western?
Alors oui, c'est un western dans une certaine mesure. Oui, c'est un western à partir du moment où ça se passe au Texas, où il y a un ranch, il y a des troupeaux, il y a un propriétaire de ranch, il y a des cowboys, il y a un chemin de fer. Donc la question ne se pose pas. C'est un western. La particularité de Duel au soleil, il y a une... Sinon, je vais devenir le spécialiste des formules que je n'aime pas. Il y a une formule qui avait été prononcée par un critique devenu hélas mythique, André Bazin, qui, en voyant le film, avait dit « ça appartient à cette catégorie qu'il faudrait appeler les sur-westerns. Le sur-western, c'était une tentative de trouver un mot pour désigner des westerns qui semblaient dire que le western n'était pas assez intéressant, qu'on avait rajouté des choses. Non, Duel au soleil, c'est un western qui se trouvait à greffer avec un mélodrame, tout simplement. Mais c'est un vrai western, puisqu'il y a le territoire, il y a les troupeaux, il y a le chemin de fer. Sans doute, là, une des particularités, c'est comme tout film, c'est un film à plusieurs voix, c'est une symphonie, c'est pas un soliste, mais C'est un film qui est fait par des personnes qui sont vraiment des créateurs de western. Le romancier Niven Busch, qui a écrit le livre, qui était scénariste, producteur, donc qui est à l'origine de un certain nombre de films donc importants par les romans qu'il a écrits, qui ont été donc adaptés. Dieu le Soleil, Les Furies d'Anthony Mann aussi. Mm-hmm. Et King Vidor est un réalisateur de plusieurs grands westerns. Et c'est quelqu'un qui a grandi au Texas, qui était nourri à la fois de la culture sudiste, de la connaissance de la culture noire et de la connaissance de la culture westernienne. Et à côté de ça, c'est une production de Selznick, le grand producteur David O. Selznick, qui était une figure totalement hors norme dans le cinéma classique, qui était l'auteur de des films qu'il produisait, sauf qu'il les réalisait pas lui-même, et qui lui détestait le western. C'était le genre qu'il avait jamais voulu produire. Et il se trouve, pour faire simple, qu'il a voulu faire un projet commercial après la guerre, dont il était sûr que ce serait promis un énorme succès. Donc il dit, je fais un western. Le livre est un best-seller, je fais un western, et je m'en occupe pas. Il le donne à King Vidor, puis ça devient un écrin pour sa femme, la femme du producteur,
et Jennifer Jones.
Jennifer Jones, et il se le réapproprie jusqu'à vouloir en faire L'Autant en emporte le vent du western, c'est-à-dire son deuxième opus magnum. Ouais, et donc c'est un western fait par des gens qui aimaient le western, avec des thèmes très westerniens, et des gens qui ne l'aimaient pas. Et avec une inversion spectaculaire, c'est que le personnage principal est une femme qui est une métisse. C'est-à-dire que l'Indien, là, c'est pas le guerrier qui fait la guerre aux ranchers, c'est qu'elle est dans la place, si je puis dire. C'est un des thèmes.
Alors, Pearl, effectivement, Pierre Berthomieux, l'héroïne, c'est Pearl, c'est une jeune fille métisse, elle est placée à la mort tragique de ses parents dans un ranch au Texas, elle va être partagée entre deux frères, enfin partagée dans l'attirance, il y a l'aîné, pondéré, diplômé en droit, campé par Joseph Cotten, et son cadet, le ténébreux Grigory Peck.
I want to tell you something, Luke McCandless. You don't fool me none no more.
You stop poking up and vexing me. I don't know how a man stands it the way you go on.
You think you don't have to marry me? Well, maybe you don't. And you don't have to go on lying to me no more neither. I made up my mind.
Yeah, you made up your mind about what?
Just like I said. If you won't marry me, I'll get out. I'll go away fast as I can.
You can go and keep going for all I care. Go find yourself somebody else to pester.
But Luke, don't you
No
care?
Woman can tie on to me like that. Least of all a bobtail little half-breed like you.
Un extrait de la fête, hein, d'une des fêtes de Duel au Soleil, une dispute entre Pearl, Jennifer Jones et Lute, alias Grigory Peck. Alors, Duel au Soleil de King Vidor, c'est un film très étonnant. On le voit maintenant, brûlant d'érotisme, aux couleurs primaires très fortes. Vous parliez de symphonie,
oui,
Pierre Berthomieux.
Les couleurs primaires, enfin ça, c'était d'une part après la guerre, le Technicolor est quand même en train de s'imposer. Il y a de plus en plus de films en couleurs et le western va en bénéficier d'ailleurs. Et c'est vrai que Selznick, David O. Selznick, donc le producteur, avait été 10 ans avant un des premiers avec quelques autres, généralement des indépendants d'ailleurs, à croire en la couleur. Et donc pour lui, la couleur était, dès 1936, un outil de création essentiel. Et donc, Autant on emporte le vent, en 1939, c'est la déclaration ultra passionnée d'amour à la couleur. Et Duel au Soleil, oui, c'est un film, c'est à mon avis le film donc hollywoodien classique qui pousse le plus loin dans l'intensité, l'usage de la couleur. Il y a des plans rouges, des plans bleus d'une intensité chromatique absolument incroyable. C'est un film, de toute façon, comme vous le dites très bien, hors norme à tout niveau, hein. C'était le film le plus cher jamais réalisé jusqu'alors. Alors ça veut rien dire, si on dit, ça coûte 5 millions de dollars, 5,5 millions de dollars, évidemment.
Maintenant, bon, ça ne veut rien dire.
Ça ne veut rien dire, mais il faut comprendre que c'est absolument impensable. C'est-à-dire, ça
on
coûte,
est en 1946.
Hein. Ça coûte 1 million de plus qu'Autant on emporte le vent. C'est un film dans lequel le producteur s'est laissé déborder par son projet. Mais enfin, il a quand même fait le film le plus rentable de cette année-là, et ce qui est sans doute un des westerns les plus rentables de tous les temps. Donc il a. Mais je pense que l'idée, c'est qu'il est parti d'un roman qui est un petit roman, non pas en termes de qualité, mais qui est court et très très sec, et qu'il a gardé tout ce qu'il peut y avoir de brûlant et de violent dans le roman, mais il l'a transformé en une fresque démesurée. Et donc, qui dit fresque démesurée, dit donc à l'écran un usage de la couleur, un usage des foules, presque chaque aspect, que ce soit l'érotisme, la construction du chemin de fer, la tragédie des parents, tout est traité de manière démesuré.
C'est exacerbé, hein.
Ou baroque, c'est le terme, c'est le western. Voilà. Mais alors ça va avec Elgood Selznick, qui est le maître d'œuvre du projet, et de King Vidor, qui est un réalisateur de l'énergie physique, ou dans les films qui suivront ce film-là, de l'érotisme, des amours déchaînés, pour lequel la morale, en termes très conventionnels, est secondaire par rapport à l'énergie des désirs et des comportements.
Alors c'est un film dont on dit que c'est un film iconique de King Vidor. Or pourtant, il n'a pas tourné, je crois, plus de la moitié des plans. Il y a eu des plans
Oh là là, alors ça c'est très compliqué. Oui, bah ça fait partie de...
Il a quitté le tournage.
Ça permet de rappeler que le cinéma, que la politique des auteurs est une imposture très séduisante, mais une imposture.
En tout cas de l'âge d'or des studios, puisque en fait c'était les...
Il me semble qu'il faut beaucoup de gens pour faire un film. Mais ça ne diminue rien le cinéma, ni les apports créatifs de chacun des créateurs.
Non, mais c'est un art industriel et un art collectif.
Il faut mettre auteur au pluriel quand on parle de cinéma. C'est vrai que c'est très intéressant qu'on ait... parce que quelqu'un comme King Vidor a été un chéri à juste titre de la critique française dans les années 20, dans les années 30, 40, 50. Donc on a beaucoup écrit sur un grand nombre de films de King Vidor et sur celui-là. Et on a trouvé très vidorienne des choses qui ne sont pas du tout réalisées par King Vidor. Ce qui est unique dans ce film-là, c'est qu'en plus du laboratoire de talents divers qui est un film, on a un film fabriqué par David O. Selznick qui signe le scénario, qui est réalisé à moitié par King Vidor, mais aussi par Joseph von Sternberg, par William Dieterle.
Donc d'autres grands réalisateurs.
Par des cinéastes immenses qui co-réalisent ça. Quand on sait pas ça, moi j'ai découvert le film quand j'étais tout petit, ça m'a hypnotisé, d'ailleurs l'hypnose n'est pas redescendue. Je voyais pas tout ça, je le trouvais donc homogène. Après des mois en plongée dans le laboratoire, je me dis comment ne pas voir finalement que dans la même séquence, on a un acteur qui n'est pas dirigé de la même manière entre le début et la fin de séquence. Bon, ben, ça fait partie de moments où on perd un peu de sa virginité.
Peut-être aussi que c'est intéressant de remarquer que Selznick est quand même coutumier du fait, puisque justement il y a un coffret Carlotta qui évoque ça, puisqu'il travaille avec Hitchcock. Notorious est quand même un film très particulier dans la filmographie de Hitchcock. Et on sent la patte de Selznick, toujours cette problématique du désir flamboyant, sauf que là c'est en noir et blanc, mais enfin il y a toujours ce truc de vie qui est propre à Selznick.
Absolument, et même chez Selznick, soit qu'il intervienne un peu sur le scénario, soit qu'il les écrive ou les co-écrive, les films qu'il fait à cette période-là sont presque des autobiographies inconscientes, puisque Jennifer Jones est l'actrice qu'il découvre, qu'il fabrique, dont il tombe amoureux, et pour laquelle il fabrique des films dans lesquels il va se ruiner. Donc tous ces films sur la fascination de cette femme pour lesquelles des hommes se détruisent, c'est un peu une autobiographie de Selznick. Inconsciente, mais c'est une lecture un peu facile, mais qui n'est pas inexacte, je crois.
Non, absolument.
Une pause musicale dans tous les cinémas du monde. On reste dans l'univers du western, mais alors là, du western postmoderne, avec ce titre tiré de la bande originale de Django Unchained de Quentin Tarantino, Freedom. Bien dans tous les cinémas du monde, en compagnie de Louis-Stéphane Ulysse et Pierre Berthaumieux, nous parlons des westerns. Juste pour terminer sur Duel au soleil, enfin pour terminer, oui, pour donner envie à nos auditeurs de voir le film, Pierre Berthomieu, on parlait de l'érotisme brûlant de ce film. C'est très étonnant, donc on est quand même à Hollywood 1946, il y a le code Hays régit toutes les bonnes manières, tout ce qu'on peut faire. Il y a un personnage assez étonnant dans ce film de pseudo-pasteur lubrique.
The Sin Killer, chasseur de péché. Oh. Voilà. Il y a d'ailleurs dans l'édition qu'on sort, il y a le prologue complet juste avant le film où la censure a obligé à ce qu'une voix dise que le prédicateur est un faux prédicateur, n'est pas représentatif des vrais... Parce que effectivement, tout ce qui se passe, c'est qu'en gros, toute l'émotion qu'il y a dans beaucoup de films classiques autour du sublime, du sacré, là, est déplacée sur l'érotisme. Et finalement, les figures comme ça de pasteurs qu'on a souvent, qui sont les garants de la morale, là, on a quelqu'un qui est un faux pasteur, qui est lubrique, et qui, quand il exorcise Pearl, surtout, a les yeux presque qui sortent de désir en la voyant. Donc, ça en fait un personnage hystérique et baroque de plus dans ce film. Donc, c'est un film qui, très consciemment, briser, provoquer la censure. Enfin, il a été coupé, d'ailleurs, ce qu'on voit. Il y a une danse dans Au Marais, où Pearl se livre presque à Gregory Peck en dansant, on sent la coupe dans le film, parce que... Bon.
Parce qu'il ne fallait pas trop...
Parce que ça, c'était quelque chose, c'était une limite. Le film casse beaucoup de limites, certaines, bon...
Alors on en parlait plutôt du fait que ce genre des grands espaces aussi pouvait parler effectivement au monde entier. Mm-hmm. Je vous propose à tous deux d'écouter le cinéaste mauritanien Abderrahmane Sissako, que j'ai pu joindre par téléphone plutôt dans la journée. Lui, il a rendu hommage au western dans son film Bamako et il a surtout été marqué par un film africain signé Mustapha Alassane.
J'ai été marqué par les premiers films que j'ai vus qui sont des westerns. J'ai découvert le cinéma western italien, ce qu'on appelle spaghetti italien. C'est surtout les Trinità qui sont mes références. Hein. J'étais enfant et je m'endormais en réalité. Donc je voyais jamais un film en entier. Et je vivais tous ces films par le récit de mes grands frères qui avaient tout vu et qui nous racontaient. Et ça a été quelque chose de très très fort pour moi en fait. Je me sens assez proche dans une forme d'écriture de John Ford. C'est les espaces, comment il arrive à maîtriser les espaces. Et surtout, Mustapha Alassane, cinéaste nigérien, reste pour moi le cinéaste le plus important. Mustapha Alassane a fait un film qui s'appelle Le retour d'un aventurier.
Eh bien, mes amis, voilà ce que je vous ai ramené de mon voyage.
Mais qu'est-ce que c'est tout ça?
On appelle ça des tenues cowboy. Anna-toi, Ibrahim, place-toi là-bas et enlève ton bonnet. Tiens pour toi un chapeau. Cowboy, une chemise.
Merci.
Allez-y.
Merci.
Tenez.
Merci.
Allez. Venez maintenant avec moi pour des démonstrations.
C'est vraiment un western avec des habits de cowboy que ce jeune aventurier qui vient d'Europe arrive dans son petit village et avec ses copains, il joue les cowboys. Personnellement, j'ai toujours envie d'adapter quelque chose en Afrique, de faire le western. J'avais envie de... Il était une fois dans le sud. Pour presque faire comme Sergio Leone l'était une fois dans l'Ouest. Le cinéma doit occuper un territoire. Et en Afrique, on peut l'occuper de cette façon par le western aussi.
Voilà, Pierre Berthomieu et Louis-Stéphane Ulysse, hein, le témoignage du grand cinéaste mauritanien Abderrahmane Sissako. C'est peut-être aussi cette envie de western. Alors, le western n'est pas mort ou le western est mort avec John Ford?
Ah non, il n'est pas mort du tout. Mais simplement que tout ce qui suit va être, je pense qu'il y a un cycle. Il y a un cycle qui a été accompli de ce que le western peut raconter du rapport à l'espace,
absolument,
à la civilisation. Et quand on refait un western, on refait le chemin. Ce que je trouve très intéressant dans ce qu'on a entendu, c'est cette idée que le western en tant que œuvre filmique, ça touche plus largement à quelque chose qui est fondamental du mythe et du folklore qu'on transmet, qu'on raconte, qu'on se transmet, qu'on re-raconte. Sans doute donc un des genres, même quand on l'a pas vu, tout le monde sait ce qu'est un cowboy. Donc on peut se raconter ça et ça, au fond, un cowboy avec un Stetson sur un cheval qui traverse un paysage donc américain, uniquement ce plan-là, c'est une cristallisation de mythe. Donc il était une fois, il y a quelque chose d'énorme rien que dans ce plan-là, et qu'on peut se transmettre. Vous passez
ce qui est
juste
amusant de constater, c'est que Monument Valley, qui est le paysage symbolique du western, et durant la conquête de l'Ouest, les cowboys n'ont jamais été à Monument Valley. C'était pas du tout c'était un désert où personne ne voulait aller.
Une création de cinéma.
C'est une pure création de cinéma. Et l'autre L'autre remarque, c'est que effectivement, le western est toujours présent. La preuve, Scorsese dit que bon, il s'est inspiré de la prisonnière du désert. Enfin bon, plein de réalisateurs aujourd'hui contemporains ou de jeunes réalisateurs reviennent à l'écriture par rapport au western. Mais économiquement, le western, par contre, n'est plus présent au centre des studios d'Hollywood.
Enfin, c'est plus dans les séries télé, peut-être.
Oui, il y en a, mais c'est pas majoritaire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le western a contaminé tous les autres genres. Il n'y a qu'à voir Three Billboards, ce genre de film. Mmh. On voit bien que le western est passé par là. Et c'est ça qui est intéressant.
Louis-Stéphane Ulysse et Pierre Berthomieux, merci. Cette émission sur les westerns doit s'achever. Mais je rappelle à tous que les deux magnifiques coffrets collector Carlotta sur les westerns, Cowboys et Indiens, avec deux livres, presque deux livres d'art, hein, dont vous signez les textes, Louis-Stéphane Ulysse chez GM Éditions. Donc ces coffrets paraissent le 15 mars, jeudi prochain. Et le coffret Ultra Collector avec une restauration nouvelle du chef-d'œuvre de King Vidor, Duel au Soleil, sera disponible en DVD et Blu-ray le 21 mars et dont vous signez l'ouvrage Pierre Berthomieux. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui.
Oui.
Au micro, Sophie Torlotin. À la réalisation, Fanny Renard. On se retrouve samedi prochain, même heure, même cinéma, en compagnie de Sophie Filière et Sandrine Kiberlin pour parler d'un conte de notre temps, La Belle et la Belle. D'ici là, bonne semaine à tous.